France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Vous le savez, Donald Trump a proposé au Danemark de racheter le territoire autonome du Groenland, lançant une controverse, voyant bien évidemment cette proposition refusée, mais avec aujourd'hui au cœur de l'actualité cette région dont vous êtes spécialiste. Mikko Meret, bonjour, vous êtes professeur de géopolitique des pôles à l'Institut libre des relations internationales et contributeur pour plusieurs think tanks en France. Peut-être tout d'abord, faut-il présenter ce qu'est le Groenland ?
Le Groenland, c'est l'autre peut-être poumon de la planète. En tout cas, c'est un régulateur du climat. De la même manière que l'Antarctique au pôle sud, donc le Groenland est localisé plutôt en Arctique, donc vers le nord. C'est une grande île de 2,2 millions de kilomètres carrés, donc c'est grand comme 4 fois la France, mais c'est un petit pays qui n'est peuplé que de 55 800 habitants, donc l'équivalent de la ville de Lorient. Donc vous imaginez un petit peu la magnitude des enjeux auxquels peuvent être confrontés ce petit pays, grand par la taille, petit par la politique, surtout qu'il y a énormément de convoitises étrangères, bien sûr, européennes, américaines, chinoises et autres.
Sur le plan écologique, avant de parler de géopolitique, qu'est-ce qui se passe au Groenland ? Y a-t-il des conséquences concrètes ? On imagine que oui, et au réchauffement climatique là-bas, Mikko Meret.
Oui, le Groenland fond, je pense que c'est plus un secret pour personne. Le Groenland, c'est donc une grande masse terrestre sur laquelle vous avez ce qu'on appelle la calotte glaciaire, donc c'est-à-dire une masse de glace qui est localisée au-dessus des terres, ce n'est pas dans les terres, on ne parle pas de la banquise, donc qui est de la glace de mer. Et ce Groenland, cette grande terre, est couverte à environ 80%, un peu plus de 80%, par cette calotte glaciaire qui fond. Sauf que cette calotte glaciaire qui fond, c'est de l'eau douce. Et en fondant et en tombant dans la mer, non seulement elle fait monter le niveau des mers, mais elle change en plus le degré de salinité des mers. Donc, c'est-à-dire tout simplement que la composition chimique de l'océan change et donc du coup a un impact sur non seulement le climat, mais aussi la biodiversité et la régulation globale du climat qu'on a évoqué.
Mais alors, à côté de cela, on sait que dans certaines régions froides du globe, par exemple en Sibérie, il peut y avoir aussi des conséquences bénéfiques du réchauffement climatique. Est-ce qu'on les observe au Groenland ? Est-ce que ceux qui habitent, le petit nombre d'habitants de cette région, sont-ils satisfaits de voir la température monter, Mikko Meret ?
C'est évidemment le grand paradoxe de l'Arctique, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement une grande catastrophe écologique qui est en train de s'accélérer, de surcroît. Mais de l'autre côté, vous avez des populations qui, pour certaines, regrettent évidemment le changement de leur environnement, qui modifient leur culture, qui modifient leur approche des territoires, qui modifient énormément de choses au quotidien. Et en plus de ça, vous avez une autre population en Arctique, à travers l'ensemble des 8 États de la région, qui finalement se dit, mais il y a des opportunités et le changement climatique, c'est pas que c'est pas si mal, c'est que ça amène un monde différent.
Lesquels ? Qu'est-ce qu'ils font ces 50 000 personnes qui habitent aujourd'hui le Groenland ?
Alors aujourd'hui, les Groenlandais sont surtout dépendants de la pêche. Aujourd'hui, ce qui ramène de l'argent au Groenland, un petit pays encore une fois par l'économie, c'est un peu plus de 2,7 milliards de dollars de PIB, donc c'est pas grand-chose, c'est surtout la pêche. La pêche, les ressources halieutiques, les produits de la mer qui représentent aujourd'hui 90% de leurs exports. Donc les produits de la mer, la pêche, c'est le secteur le plus important. Mais pour les Groenlandais aujourd'hui, le changement climatique apporte énormément de potentiel nouveau. Et c'est d'autant plus important que le Groenland cherche à obtenir son indépendance. Le Groenland est sous tutelle danoise depuis près de 300 ans. On va célébrer le 300e anniversaire de la deuxième colonisation par les Danois en 2021, donc c'est bientôt. Et les Groenlandais cherchent à financer cette indépendance, donc à développer des nouvelles industries, de nouvelles opportunités économiques qui permettront de générer des revenus fiscaux pour financer cette indépendance.
Alors, on en vient à la proposition de Donald Trump. Pourquoi veulent-ils être indépendants, qu'ont-ils comme intérêt à y gagner ? Donc aujourd'hui, le Groenland relève du Danemark. D'ailleurs, la première ministre danoise a refusé bien évidemment la proposition du Groenland, puisque celui-ci n'était pas à vendre. Pourquoi y a-t-il des volontés d'indépendance, Mikko Meret ?
Alors, en ce qui concerne le Groenland, très clairement, on est sur un État qui est en mutation, une population qui cherche à s'émanciper, qui cherche à tout simplement s'autodéterminer. Et petit à petit, depuis les années 50, il y a eu des vagues successives de nouvelles compétences, de nouveaux droits qui ont été permis par le Danemark et donnés au Groenland. La dernière vague qu'on pourrait qualifier en termes français de décentralisation ou déconcentration, c'est 2009. En 2009, le Groenland est devenu officiellement un État semi-autonome avec du coup des compétences renforcées, c'est-à-dire qu'il gère absolument tous les pans de leur politique publique, à l'exception des affaires étrangères, de la monnaie, des questions de souveraineté, de défense. Donc à partir de là, le Groenland est déjà quasiment indépendant, mais dans la logique de ces populations inuites, puisque le Groenland est encore composé à environ 90% par les autochtones inuits de l'île, il faut peut-être aller plus loin et obtenir le premier pays inuit autochtone de l'espace arctique.
Mikko Bered, on est entre nous, Donald Trump savait que le Groenland n'était pas à vendre.
Parfaitement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a strictement aucun conseiller, ni américain ni autre, qui aurait pu lui dire, mais bien sûr, tout à fait, ils vont vendre. Clairement, le Danemark ne vend pas. Le Danemark ne vend pas parce que le Danemark, simplement, ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre le Groenland. Depuis 2009, le Groenland peut déclarer son indépendance à tout moment. Mais l'objectif du Danemark, c'est de développer petit à petit une relation de confiance de manière à ce que, si jamais le Groenland devienne indépendant, il reste quand même le partenaire privilégié, l'ami, le cousin, appelez ça comme vous voulez, du Danemark. Donc du coup, avec un accès privilégié.
Alors il faut quand même rappeler qu'il y a eu dans l'histoire américaine des États achetés.
Tout à fait. Et du coup, le Groenland, c'est la troisième fois que les États-Unis proposent de l'acheter. Les Danois...
C'est une obsession américaine.
C'est une obsession, mais on peut la comprendre parce que d'un point de vue géostratégique, et là, on va vraiment dans la géographie et le stratégique, le Groenland est très important pour les États-Unis. Et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, le Groenland s'est révélé être un territoire particulièrement utile pour le transbordement d'hommes depuis le continent américain, nord-américain, vers l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, je l'ai dit. Mais en plus de ça, dans le cadre de l'espace arctique qui est de plus en plus accessible, qui est remilitarisé, il est très clair que le Groenland a un rôle de pivot. C'est-à-dire que le Groenland, comme l'Alaska, puisque l'Alaska appartient aux Américains, ils l'ont acheté en 1867, à la Russie, souvenons-nous, très clairement, vous avez là un pays, les États-Unis, qui cherchent à avoir deux piliers stratégiques pour couvrir la façade nord de leur continent nord-américain.
Alors, aujourd'hui, et dans cette déclaration donc, qui visait non pas véritablement à acheter ce territoire, puisque Donald Trump savait qu'il n'était pas à vendre, même si ça appartient à la tradition américaine de pouvoir le faire, il voulait peut-être lancer un message à d'autres puissances.
Oui. Et encore une fois, faut revenir aux velléités danoises et groenlandaises d'acheter ou de se laisser acheter ou pas. Je vous ai dit que le Danemark n'était pas vendeur, parce que le Danemark ne voulait pas perdre son influence sur le Groenland. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que le Danemark aujourd'hui, s'il fait partie du jeu stratégique de l'Arctique, s'il est à la table du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire l'organe diplomatique de référence de la région, ce n'est que par la seule grâce du Groenland, il faut bien le signaler. Si le Groenland devient indépendant, n'est plus danois, qu'il devient américain, le Danemark n'est plus dans le jeu arctique. Donc ça, c'est une deuxième chose par rapport aux Danois qu'il faut signaler. Et puis, les Groenlandais ne cherchent pas à remplacer une tutelle par une autre. Ils ne cherchent pas à remplacer les Danois par les États-Unis, la Chine ou même l'Union européenne, dont ils sont d'ailleurs sortis en 1985. Donc à partir de là, vous avez une situation où il y a des États qui ne veulent pas céder leur territoire, c'est le Danemark, un territoire qui ne veut pas se laisser acheter, le Groenland, et les États-Unis qui disent « mais on doit envoyer un message fort » parce que depuis 15 à 20 ans, petit à petit, avec les gouvernements successifs, on s'est désengagé en Arctique. Et aujourd'hui, Donald Trump, depuis 18 mois environ, cherche justement à affirmer un réengagement américain dans la zone.
Il y a des volontés chinoises sur ce territoire.
Absolument. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'Arctique n'est pas un Far West, c'est pas non plus un Eldorado. Pour autant, vous pouvez y faire beaucoup de choses, et notamment...
Qu'est-ce que vous pouvez y faire ?
Ah ben, j'allais vous le dire, beaucoup de choses. La première des choses que vous pouvez faire, c'est essayer d'obtenir des parcelles de territoire. Et par parcelles de territoire, il faut bien comprendre que la logique n'est pas les États-Unis ou la Chine vont acheter le Groenland dans son ensemble. Par contre, rien n'empêche d'ouvrir des négociations pour que les États-Unis, par exemple, puissent accroître la situation, la surface et les activités de leur base militaire de Thule, au nord-ouest du Groenland, qui est, qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui est absolument importante dans l'appareil stratégique américain vers le nord. Peut-être obtenir de nouvelles bases, une nouvelle base militaire, peut-être retourner sur des anciennes infrastructures comme le hub aérien de Kangerlussuaq, qui est au cœur du Groenland.
Qui sert à quoi ?
Qui a été conçu à la base comme un hub aérien militaro-civil, qui petit à petit a été tourné, est devenu un hub purement civil. Et aujourd'hui, les États-Unis envisagent de potentiellement réutiliser Kangerlussuaq, en plus de la base de Thule, qui est plus au nord, comme un hub aérien à la fois civil, mais aussi peut-être militaire. Donc, il y a toute une facette, il y a beaucoup de possibilités au Groenland, peut-être aussi obtenir de nouvelles bases, comme par exemple la base de Groenendal que les Danois voulaient vendre et que les Américains pourraient aujourd'hui envisager d'acheter.
On l'a évoqué tout à l'heure, Mikko Mered, le réchauffement climatique conduit à une fonte des glaces, c'est de l'eau douce. Ça voudrait dire, alors d'après certains spécialistes, que la banquise pourrait complètement disparaître en été d'ici 20 ans seulement sur cette région. Alors, tout dépend évidemment des scénarios que l'on dresse. Qu'est-ce qu'elle devient, cette eau douce, lorsqu'elle fond ? À quoi ressemble le territoire ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, construire des routes ? Est-ce que l'on peut imaginer des cultures ?
Tout à fait. Alors, déjà, permettez-moi, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que le Groenland n'est pas non plus qu'un gigantesque bloc de glace perdu au milieu de l'Arctique. La pointe sud du Groenland, elle est située même au sud de l'Islande. Mmh. Il faut bien comprendre que si le Groenland...
Ça ressemble à quoi,
hein ? Si le Groenland s'appelle le pays vert, c'est tout simplement parce que c'est un pays vert sur sa pointe sud, là où il a été découvert par les Occidentaux.
Mais ce sont des steppes ou alors il y a des arbres ? Qu'est-ce qu'on
Donc c'est une végétation relativement basse, mais qui permet tout de même de développer potentiellement des pâturages, qui permet de développer potentiellement de l'agriculture, sous serre ou non d'ailleurs. Et petit à petit, c'est une zone qui est complètement dégelée, aussi bien en été qu'en hiver, déjà aujourd'hui. Donc le sud du Groenland est relativement différent
au
nord.
On s'imagine, pardonnez-moi, on s'imagine ça comme une banquise.
Oui.
L'eau douce, elle va où lorsqu'elle fond ?
Alors ça, c'est la première distinction qu'il fallait que je fasse, Groenland nord et Groenland sud. La deuxième distinction, c'est quels sont les types de glaces dont on se parle. Il faut surtout pas confondre en fait la banquise et la calotte glaciaire. Puis il y a le permafrost aussi, qui sont les terres gelées. Une calotte glaciaire, qu'est-ce que c'est ? On en trouve au Groenland, on peut en trouver sur le continent nord-américain, on peut en trouver aussi évidemment en Antarctique. C'est en fait de l'eau douce qui est sur les terres, qui est au-dessus des terres. En Antarctique, par exemple, on peut parler de 3000 mètres, voire 4000 mètres d'épaisseur de glace. Donc c'est absolument faramineux. Ça, c'est de l'eau douce. Et si cette eau douce fond, elle tombe dans la mer, qui est de l'eau salée. Et c'est ça qui fait que la salinité de l'eau, donc la teneur en sel de l'eau de mer, va changer. Petit à petit, si vous mettez de l'eau douce, ça changera. Et donc à partir de là, c'est la fonte de la calotte qui induit toutes ces modifications qu'on a déjà évoquées et qui induit aussi la montée du niveau des mers. La banquise, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer salée qui gèle en hiver, qui en été aujourd'hui existe sur une grande partie de l'Arctique encore, même si cette surface de banquise diminue l'été. Et d'ailleurs, on devrait peut-être avoir, non pas un record, mais cette année, la NASA et le NSIDC estiment qu'en septembre, on pourrait voir la deuxième fonte de glace record après celle de 2012 en Arctique. Donc, cette banquise, c'est de l'eau salée, très différente de la calotte.
Et lorsque l'on imagine toujours les conséquences de ce réchauffement climatique, le passage de l'Arctique, par exemple, est-ce qu'il va être de plus en plus praticable ? On imagine que oui.
D'après vous, est-ce qu'il est déjà ouvert ?
Oui.
Eh oui,
il est déjà ouvert.
Il est déjà ouvert, en effet. Il est déjà ouvert depuis déjà quasiment un mois et demi. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, petit à petit, les convoitises se déportent du sujet des différentes ressources pour petit à petit se concentrer sur ces enjeux donc de flux intercontinentaux.
Donc ça, c'est un intérêt supplémentaire.
C'est un intérêt supplémentaire, mais qui tend à devenir l'intérêt petit à petit le plus important. C'est-à-dire que à court terme, évidemment, les investisseurs internationaux, qu'ils soient privés ou publics, parapublics, qui vont en Arctique, cherchent à obtenir des ressources, et le Groenland est un trésor de ressources pour ces investisseurs-là.
C'est une mauvaise nouvelle pour le canal de Panama ?
Potentiellement, mais il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure que l'économie internationale, la globalisation se développe et que les flux maritimes se multiplient, l'Arctique va en effet petit à petit devenir une petite autoroute maritime internationale, mais ne va pas non plus directement concurrencer Panama ni Suez. C'est-à-dire que l'Arctique va développer son propre marché, mais qui peut tout à fait atteindre 10, 15, voire 20% du trafic maritime mondial.
On a peu parlé des ressources du sous-sol. Je crois qu'il y a des terres rares. On sait à quel point elles sont importantes aujourd'hui dans le commerce mondial. Et puis, il y a de l'uranium. Bref, il y a des choses dans le sous-sol au Groenland.
Absolument. Le Groenland, c'est ce que je commençais à dire. En effet, c'est un trésor pour ces investisseurs-là, puisque imaginez-vous une terre relativement vierge, très peu explorée, même s'il y a déjà eu un certain nombre d'explorations, quelques exploitations minières aux années 50, aux années 60. Il faut bien comprendre que au Groenland, vous avez un territoire vierge avec énormément de ressources de pétrole et de gaz qui sont intéressantes aussi bien pour les étrangers que les Groenlandais eux-mêmes, qui vont ouvrir de nouvelles licences d'exploration, exploitation pétrolière et gazière sur son territoire en 2021, c'est demain matin, et qui intéresse bien sûr les majors chinoises notamment. De l'autre côté, vous avez les terres rares, puisque le Groenland serait la cinquième réserve mondiale de terres rares, si importante pour la transition écologique et la transition numérique, et en particulier sur une concentration, c'est la concentration de Kvanefjeld, qui est localisée dans le sud du Groenland, parfaitement exploitable aujourd'hui, indépendamment de la fonte des glaces, et qui serait le deuxième plus grand gisement en qualité et en quantité de terres rares après la Chine dans le monde.
Mikko Meret, vous qui êtes professeur de géopolitique, vous vous intéressez au pôle. Alors, cette controverse qui était il y a quelques jours une boutade et qui malheureusement est devenue, semble-t-il, quelque chose de sérieux, cette proposition américaine de racheter le Groenland, même si, selon vous, Donald Trump savait très bien que le Groenland n'était pas à vendre. Cela attire l'intérêt sur les pôles. On se rend compte finalement qu'il s'agit aujourd'hui d'une région extrêmement importante sur le plan stratégique.
Absolument. Ça fait depuis 2007 en particulier, que l'Arctique est en train de prendre une nouvelle tournure, un nouvel intérêt, une nouvelle importance. Et le Groenland est en particulier particulièrement important dans la zone arctique. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on l'a dit, c'est un territoire qui est vu par le Pentagone comme un territoire particulièrement stratégique, d'un point de vue géographique, purement géographique, aussi bien pour l'Arctique que pour l'espace transatlantique. Et puis, pour la Chine, notamment, c'est un territoire très important pour les ressources. On a cité rapidement les terres rares, le pétrole et le gaz, mais il faut qu'on cite aussi l'uranium, il faut qu'on cite aussi le sable, extrêmement important pour
l'urbanisation. Ah oui, il faut expliquer qu'il y a une pénurie aujourd'hui de sable. Ça peut sembler inouï, mais c'est quelque chose aujourd'hui de réel.
Absolument. Et à mesure que la calotte glaciaire du Groenland fond, la terre du Groenland remonte en altitude et donc libère un certain nombre de ressources en sable sur ses côtes qui pourraient tout à fait être exploitées, qu'en tout cas les Groenlandais envisagent d'exploiter. Vous avez aussi l'eau douce, tout simplement. Donc on peut y aller et développer toutes ces ressources-là, si on le souhaite en tout cas. C'est quelque chose que les Groenlandais veulent faire.
Les pôles nous ont fait rêver, grâce à Nicolas Martin d'ailleurs, tout cet été, et de par l'écologie et le système écologique qui y prévaut. Il y a aussi également sur le plan anthropologique beaucoup de richesses. On a tous rêvé en lisant le livre de Mallory sur les derniers rois de Thulé. Qu'en est-il aujourd'hui de ces peuples premiers? Que deviennent-ils? Comment vivent-ils, Mikko Meret?
Ils vivent comme vous et moi, c'est-à-dire que petit à petit, vous avez une déportation depuis les campagnes vers les quelques villes de l'Arctique, c'est vrai au Groenland, c'est vrai dans le nord du Canada et autres, et ces populations-là cherchent à essayer de limiter l'impact de la fonte des glaces sur leur culture, l'impact de la mondialisation également sur leur culture, mais de l'autre côté, veulent aussi profiter de cette mondialisation.
Mais le monde décrit par Mallory il y a bientôt une cinquantaine d'années, est-ce qu'il existe encore? Est-ce que l'on peut...
On va dire oui, il existe encore dans le nord du Groenland. Vous pouvez très bien y accéder en tant que touriste. Là aussi, c'est une petit à petit cette culture, cette identité arctique, haute arctique, est une identité qui est en train de devenir une commodité qui est utilisée par des tour opérateurs, qu'ils soient européens, chinois ou autres, mais aussi sous l'impulsion des Groenlandais eux-mêmes, qui voient là une opportunité de développement. Donc, tout aujourd'hui, en Arctique, à travers l'ensemble de la zone, constitue des opportunités de développement et les peuples premiers s'insèrent dans cette dynamique-là.
Et il s'insère de manière heureuse ou bien, parce qu'on sait qu'au Canada, par exemple, le destin des peuples premiers est à la fois un enjeu politique et aussi un destin malheureux.
Absolument.
Au Groenland, qu'en est-il ?
Le Groenland est un petit peu différent parce que le Groenland est un territoire qui... Les Inuits sont majoritaires au Groenland, ce qui n'est pas le cas dans les autres territoires de l'Arctique. Dans tous les autres territoires de l'Arctique, les peuples autochtones sont en réalité minoritaires. Ils n'ont pas la capacité d'agir politiquement à quelques réserves, par exemple en Alaska ou au Canada, sur leur destin et sur leur velléité de développement. Donc le Groenland est à part, et c'est la raison pour laquelle les Groenlandais peut-être se voient comme un préfigurateur du futur.
Merci beaucoup, Mikko Meret, de nous avoir éclairé sur ces régions méconnues. Les mondes polaires, c'est le livre que vous allez bientôt publier aux presses universitaires de France. Dans quelques instants, on va évoquer une autre région méconnue et qui est aujourd'hui aux prises avec un drame écologique, l'Amazonie.
France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Et pour évoquer les incendies qui ravagent la forêt amazonienne, je suis en compagnie d'une anthropologue, Irène Bélier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et médaille de bronze du CNRS. L'Amazonie, il faut rappeler que c'est une forêt primaire, que c'est donc un trésor pour l'humanité. Vous y êtes allée, Irène Bélier. À quoi ça ressemble ?
L'Amazonie est un espace absolument extraordinaire. Lorsque l'on a encore en face de soi la forêt primaire avec des arbres géants, une diversité biologique extraordinaire avec une variété d'espèces végétales, animales. Et puis, c'est un espace, comment dire, d'abord varié parce que moi j'étais plutôt au Pérou, en basse terre, donc c'est assez plat, mais il y a des régions en Amazonie qui sont des hautes terres, un petit peu plus vallonnées, où il y a des rochers, où il y a des pierres, voilà. Donc c'est très diversifié l'Amazonie et c'est un espace très riche.
Et oui,
il est maintenu en condition, disons, de rester riche.
Et oui, parce qu'il reste très peu de forêts primaires sur Terre. Elles sont très différentes des forêts qu'on a l'habitude de voir. Je crois qu'il en reste une toute petite en Pologne. Donc c'est un trésor qui est en train de partir partiellement en fumée. Et puis c'est aussi un trésor sur le plan de la diversité humaine parce que les peuples d'Amazonie, eux, ils sont menacés. Alors ils sont menacés par le politique, par Bolsonaro. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez dénoncé, Irène Bélier.
Oui, alors il faut savoir que l'Amazonie couvre quand même neuf pays hein, en Amérique du Sud, et que le Brésil est en soi devrait gérer 60% des zones de la forêt amazonienne qui revient à son territoire. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est extrêmement préoccupé de la position très plus au crime, je dirais, de Jair Bolsonaro, qui envisage sans aucun état d'âme de lever les protections sur les territoires autochtones qu'on appelle les terras indigenas au Brésil et qui concernent naturellement les Indiens d'Amazonie pour en faire, et c'est ça le problème qui alerte aujourd'hui et nous affole d'une certaine façon, développer l'économie du soja et de l'élevage bovin. Donc cette tendance à aller vers la monoculture d'un produit, donc le soja, ou de déforester pour pouvoir faire des pâturages pour les bovins est extrêmement problématique, d'abord parce que c'est de la monoculture et que c'est qu'une seule activité économique, et c'est donc bien au contraire de ce qui peut l'Amazonie peut en tant que telle porter une diversité d'exploitation si elle était raisonnée. Ce que l'on observe et que l'on constate régulièrement, c'est que la monoculture, l'exploitation pour faire des pâturages, ruine la terre. Parce que la terre en tant que telle amazonienne est très mince. Enfin, l'humus fertile est très mince. Mm-hmm. Il est constitué de ces arbres qui vont, à un moment donné, déposer leurs feuilles, les racines, etc., etc. Si tout cela brûle, toute cette diversité-là disparaît, la terre devient progressivement pauvre parce qu'on atteint assez vite une couche de latérite. Et ça a été démontré depuis près d'une trentaine d'années, hein, que on peut pas cultiver facilement en Amazonie sans avoir ou des entrants ou arriver très vite sur des zones vont être désertifiés, puisque la latérite, c'est une forme d'argile et rien ne pousse après, quoi.
Et oui, et la stratégie du gouvernement Bolsonaro, c'est de laisser faire, puisqu'il est favorable à la déforestation, à l'exploitation minière. Il y a eu le meurtre d'un chef tribal, Emra Wayapi, oui, qui n'a pas été condamné par Bolsonaro et qui témoigne de la situation, là aussi, de cette région, Irène Bellier.
Alors, je dirais non seulement les assassinats de leaders autochtones, et par exemple, ce que vous avez cité à propos de Ikuana, ne sont pas condamnés, mais même il les met en doute. Et c'est ça le problème principal avec Jair Bolsonaro aujourd'hui, c'est que d'un côté, il va effectivement laisser les garimperos, les forestiers envahir librement la terre en disant « Allez-y, c'est à prendre, faites ce que vous voulez et débrouillez-vous ». Mais en plus, il va répandre d'autres fausses nouvelles ou fake news, hein, c'est quand même de cela dont il s'agit, notamment lorsqu'il a aujourd'hui, il dit que, en gros, ces départs de feu sont imputables à des ONG parce qu'elles auraient perdu des subventions nationales. C'est totalement invraisemblable.
On voit effectivement la stratégie qui est suivie. Alors, dans ce contexte, avec ces incendies qui représentent plus du double des incendies habituels, parce qu'il y en a traditionnellement, les ONG réclament une réaction du gouvernement brésilien. Nous sommes en ligne avec Clément Sénéchal. Bonjour. De Greenpeace.
Bonjour.
Clément Sénéchal, quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'il faut rappeler que l'Amazonie est traditionnellement en proie à des feux.
Oui, effectivement, c'est la saison des feux en Amazonie, donc c'est un phénomène qui est connu. Ce qui se passe, c'est que depuis que Bolsonaro a pris le pouvoir, en réalité, ces feux ont été multipliés, si on prend depuis le début de l'année, par 3 par rapport à la même période l'année dernière. Et c'est directement lié, effectivement, aux politiques pro-agro-business de Bolsonaro, puisque ces feux, ils procèdent directement de la déforestation. C'est-à-dire, comme l'expliquait votre invité précédemment, on va aller défricher à coup d'incendie pour pouvoir étendre les surfaces disponibles pour les bovins, pour le pâturage et pour planter du soja pour l'alimentation animale. Soja qui est ensuite exporté, notamment vers l'Union européenne et vers la France.
Mais alors, la question qu'on se pose, Clément Sénéchal, comment peut-on faire pour lutter contre de tels feux? Parce que on voit bien que sur des surfaces beaucoup plus modestes, il est difficile de le faire. Dans les parcs nationaux américains, à Yosemite par exemple, il a été impossible de lutter contre les feux. Que faire face à ce type de catastrophe?
Oui, c'est aussi le cas en Sibérie, hein, où il y en a des feux géants qui ravagent la forêt boréale. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est que les feux, il faut les prévenir. C'est une politique de prévention très efficace. Et les déclarations de Bolsonaro et la politique de Bolsonaro ne vont pas du tout dans ce sens-là. Et il faut intervenir dès le départ, du feu dès l'origine, pour circonscrire le foyer et éviter.
Alors, la prévention, mais si la prévention n'a pas été faite aujourd'hui, que réclament les ONG? Que pourrait faire le gouvernement Bolsonaro?
Pour éteindre les incendies, oui. Malheureusement, pour éteindre un incendie, ça devient compliqué. Hein. À partir d'une certaine échelle, il y a peu de choses que effectivement la puissance humaine puisse faire. Il faut attendre les pluies diluviennes, comme c'est le cas par exemple en Sibérie. Non, nous, ce qu'on demande, c'est que Bolsonaro respecte l'accord de Paris, article 5, protéger les forêts, qu'il cesse ses attaques contre les populations autochtones. Il arrête de démanteler les agences d'État et les législations chargées de protéger la forêt amazonienne, qu'il cesse ses attaques outrancières contre les ONG et qu'il cesse d'encourager l'impunité avec ses déclarations qui couvrent en réalité et qui encouragent les agissements de l'agro-business contre la forêt amazonienne.
Et oui, parce qu'Irène Bellier, ce sont des crimes contre la forêt, des crimes contre les êtres qui y habitent, qui n'ont pas été dénoncés par Jair Bolsonaro. Irène Bellier ne nous entend pas, mais nous la remercions d'avoir évoqué cette terrible situation. Merci beaucoup, Clément Sénéchal, d'avoir vous aussi évoqué aujourd'hui ces incendies qui ravagent l'Amazonie. Il est 8h25 sur France Culture.